J'ai préparé pour ce soir un enseignement sur les facteurs de l'éveil. Les facteurs de l'éveil sont de qualité qui se développent par la présence. Donc, c'est des qualités qui sont déjà en nous. Et puis, le fait d'entraîner la présence fait qu'elles émergent. Et travailler les facteurs de l'éveil, en fait, c'est prendre conscience de quels sont les facteurs pour pouvoir les reconnaître quand ils sont là. Et les facteurs de l'éveil oriente l'esprit vers la libération de la souffrance, donc vers l'éveil. Il y a une participante qui a partagé récemment que elle n'était pas là pour la libération, donc elle pensait que pour cette vie, ça n'allait pas le faire. Donc elle n'attendait pas l'éveil dans cette vie. Et puis, quand j'entendais les enseignements de facteurs de l'éveil, pour moi, c'était un peu, je me sentais un peu comme ça aussi. Avec le mot éveil, on a l'impression que c'est la libération totale de la souffrance. Et par éveil, ce qu'on veut dire, c'est avoir l'esprit ouvert. C'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont dans le quotidien et ne pas être identifié. C'est le fait de pouvoir porter l'attention à l'instant présent et, si possible, d'accepter ce qui est là. Par exemple, que vous avez une difficulté à cet instant, une petite douleur physique, émotionnelle. C'est juste le fait de pouvoir revenir dans l'instant et pouvoir être avec. Donc les facteurs de l'éveil, c'est notre capacité à utiliser notre sagesse à chaque instant. Et il y avait Ajahn Sumedho qui disait, la sagesse du Bouddha, ce n'est rien d'extraordinaire. Donc on n'a pas besoin de penser que c'est incroyable en fait. C'est une sagesse modeste. Ce n'est pas quelque chose que nous obtenons pour toujours, mais plutôt que nous employons à chaque instant. Dans la méditation, par exemple. Et donc, c'est comment être sagement avec cette douleur qu'on a. Parfois, la sagesse, c'est d'accueillir, d'avoir de l'intérêt et de pouvoir ressentir comme on sait. Et il y avait un participant qui disait qu'il avait dit non à quelque chose qui était émergé et qui était difficile à prendre. Donc, sagesse, ça ne veut pas toujours dire ouvrir le bras à tout ce qui vient et qui est difficile. Parfois, la sagesse, c'est savoir dire non. Pour l'instant, je ne peux pas accueillir ça. Et le Bouddha a parlé de 7 facteurs d'éveil. Et il y a l'attention, l'investigation, l'énergie, la joie, le calme, la concentration et l'équanimité. Et on va les voir un à un. Et c'est comme des anti-obstacles. Donc, généralement, on sait quand les obstacles sont là. On peut dire que si on est un peu somnolent, on le sait. À un moment donné de notre pratique, on s'en rend compte qu'on est en train de s'endormir. Donc, on reconnaît obstacle, somnolence. Ou si on a trop de pensées, on reconnaît obstacle, pensée. Mais quand il y a autre chose, quand il y a la présence, mais qu'il y a une de ces qualités, parfois, on ne sait pas vraiment les reconnaître. Donc, le fait de travailler les facteurs de l'éveil, c'est une manière d'affiner notre conscience de l'instant. Donc, c'est d'avoir un facteur de l'éveil et de pouvoir le reconnaître, le nommer et aussi le travailler. Donc, une manière d'affiner notre pratique avec sagesse. Et donc, le but, c'est de pouvoir observer l'expérience plutôt que d'être totalement identifié à l'expérience. Par exemple, quand il y a le calme, on peut le reconnaître. Peut-être que c'est agréable et on a envie de s'attacher. Et c'est aussi juste pouvoir voir comment c'est et trouver un peu cet équilibre. Et parmi les facteurs de l'éveil, il y a le facteur central qui est l'attention, sati, la pleine conscience. Et l'équilibre, en fait, elle permet de faire l'équilibre entre les facteurs dynamiques et le facteur de stabilité mentale. Donc, les facteurs dynamiques, c'est l'investigation, l'énergie et la joie. Et les facteurs de stabilité mentale, en fait, ça nous permet de calmer le mental. C'est le calme, l'équanimité et la concentration. Et on va aller voir un à un. Donc on va commencer par sati, l'attention, la pleine conscience, qu'on a déjà vu il y a quelques jours avec Anne. Sati, c'est le cœur du travail de la méditation. Donc c'est un peu le fait de revenir au moment présent. Et c'est notre point de départ avec l'attention. C'est l'outil qu'on emploie tout au long du chemin, parce qu'on utilise cette attention pour revenir, et puis revenir, et puis revenir. Et puis c'est aussi le point d'arrivée, donc on vise à être ici et maintenant. Et l'attention, c'est un facteur indispensable à la sagesse. Donc, c'est cette compétence de se reconnecter au corps, ressentir le corps, et puis en même temps avoir cette compétence qui reçoit l'expérience. On est présent et ouvert, et puis on reçoit ce qui est là. Par exemple, juste maintenant, est-ce que vous êtes là? C'est juste ça, ça dit être là. Et quand on a la pleine conscience, bah, on peut accueillir les émotions difficiles. On peut plus facilement accueillir une tristesse, une difficulté. On ne peut que guérir dans l'instant présent. On ne peut pas guérir ailleurs que maintenant. Et comme je disais avant, sati, c'est une compétence qu'on a déjà tous. Donc, tout ce qu'on fait ici, on ne va rien inventer. On va juste laisser émerger ce qui est déjà chez chacun de nous. Et puis par rapport au facteur de l'éveil, on ne peut pas avoir trop d'attention, en fait. L'attention, c'est toujours bénéfique. Ça, c'est pour l'investi. Ça, c'est pour sati, pour la pleine conscience. Ensuite, le deuxième facteur de l'éveil, c'est l'investigation. Et dans l'investigation, il y a deux types d'investigation. Donc, il y a l'investigation spirituelle, c'est mental. Donc, c'est par exemple, peut-être que là, si vous entendez, vous avez envie de comprendre ce que je dis. Ou quand on entend des enseignements qui nous intéressent, on a envie de se ressouvenir, d'apprendre, de noter, de garder. Donc, c'est un peu ça l'investigation spirituelle. Le but, c'est de comprendre le dharma de manière intellectuelle. Et puis, je m'en souviens, en fait, au début, quand j'avais commencé à entendre les enseignements, j'avais tellement envie de tout retenir, en fait, que dans ma tête, tout ce qu'on y parlait, j'essayais juste de retenir mentalement, en fait, tout ce qui était dit. Et puis après, je posais plein de questions, et puis j'avais envie de tout comprendre. Et je m'en souviens qu'une prof, elle m'avait dit, mais en fait, c'est pas ça, entendre le dharma. Le dharma, on entend et puis on prend ce qu'on peut prendre, petit à petit, et puis il y a un temps d'intégration. Et c'est pas quelque chose qu'on peut juste prendre d'un coup tout, et puis c'est tout. Et petit à petit, j'ai compris, et puis j'ai un peu tout lâché. Et puis après, je suis revenue quand même. C'est important de comprendre, mais peut-être pas tout, en fait. Donc c'est un peu le chemin du milieu. Et ça dépend de nos personnalités. Il y a des personnalités, en fait, où on est vraiment très curieux, on a beaucoup envie, et puis il y a d'autres qu'on a moins. Donc ça, c'est pour l'investigation spirituelle. Et après, il y a l'investigation dans l'instant présent. Donc ça, c'est le côté exploratoire qu'on met en pratique. Ce qu'on entend, c'est qu'on donne l'intérêt à l'expérience présente aussi. Donc, comment c'est dans le corps, comment elle est l'expérience. Et puis, c'est pas du tout psychologique en fait, pour comprendre, moi je fais ça parce que j'avais fait ça. Donc, souvent, on a un peu cette tendance à, quand on parle d'intérêt, c'est à comprendre psychologiquement comment c'est. Mais dans ce type d'investigation, on cherche plus à voir avec délicatesse tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc par exemple, je peux avoir beaucoup de pensées, et puis comment c'est dans le corps? Et quand on se pose la question, parfois on sent rien. Et puis il y a des moments où on peut ressentir, on peut dire, ah ouais, je ressens quand même une petite tension vers le dos, ou ça serre un peu vers le ventre. Puis comment c'est? Ou juste maintenant en fait, comment elle est votre expérience? Comment ça se passe au niveau corporel? C'est ça l'investigation du présent. Questionner et ressentir. Et lorsque nous sommes dans l'investigation, nous développons une énergie qui est utile. Et donc le troisième facteur, c'est le facteur de l'éveil, c'est l'énergie. Donc c'est un outil qu'on utilise. Donc c'est un peu comme la concentration, c'est ni bon ni mauvais. Ça dépend comment on l'utilise. Et ce qui propulse l'effort nécessaire pour pouvoir développer l'attention. Donc c'est un peu cette force, ce courage qu'il y a derrière pour pouvoir être là. Et il y a des moments, par exemple, où on vient s'asseoir en méditation et puis on sent tout de suite qu'il y a de l'énergie, en fait, qu'on peut être là, c'est facile d'être là. Et puis il y a d'autres moments où l'énergie, elle n'est pas disponible, on somnole, où on n'a pas. Donc c'est important de juste prendre conscience et pouvoir reconnaître quelle est l'énergie maintenant. Par exemple, maintenant, je me posais la question, quelle est l'énergie? Puis peut-être qu'au début, on a un petit peu, c'est plus difficile de percevoir. Puis avec la pratique, peut-être qu'on remarque plus. Et on peut aussi clairement le constater le matin quand on se réveille. Quand le réveil sonne, quelle est l'énergie? Est-ce que vous avez envie de... Est-ce qu'il n'y a pas trop d'énergie et puis on a envie de rester au lit? Ou est-ce qu'au contraire, on entend et puis on sent l'énergie et puis on a envie de sortir et puis de commencer la journée? En tout cas, je sais que pour moi, c'est un peu plus difficile l'énergie le matin. Mais c'est intéressant de voir, en fait, et puis faire attention le matin, comment c'est pour moi. Donc, il y a l'attention, l'investigation, l'énergie. Et puis après, il y a la joie. Et donc, quand on parle de joie dans les en tant que facteur de veille, c'est une joie spirituelle. Donc, ce n'est pas du tout conditionné, ce n'est pas comme mudita. Par exemple, quand on est dehors et puis on voit la neige, on se dit « Ah, waouh, je ressens de la joie ». Cette joie, elle est plus conditionnée. Elle est conditionnée à l'espace, à comment je me sens. Donc, ça, c'est une joie plus... ce n'est pas une joie spirituelle à laquelle on parle. La joie spirituelle, c'est un moment où c'est par la pratique, en fait, qu'on se sent bien. On peut voir des lumières, on peut avoir des tremblements. Il y a toutes sortes de joie, en fait. Il peut y avoir toutes sortes de sensations agréables. Et on a un sentiment d'unification à ce moment-là. Et quand on est dans cet état, on n'a pas... d'aversion ni de malveillance. Et puis, si on ressent ça, c'est important de voir que ça peut être agréable. Et juste, attention, le petit panneau, ne pas s'attacher. Mais en fait, c'est pas très important si on ressent ou pas cette joie. C'est pas quelque chose de nécessaire, absolument. Mais c'est juste... C'est important de le mentionner pour savoir que si ça arrive, c'est important de le reconnaître. Et après la joie, il y a le calme. Ou même sans la joie, il peut y avoir le calme. Et le calme, c'est un facteur de l'esprit qui apaise les perturbations, les difficultés. Donc c'est un peu, on a un peu de paix et de fraîcheur dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Donc c'est quand le corps est détendu, l'esprit est détendu. C'est un peu comme si notre système nerveux était mis en pause. Je ne sais pas si vous avez senti un moment de la retraite, un moment où il n'y a pas trop de pensées, il n'y a pas trop de peur, il n'y a pas trop d'enjeux, il n'y a pas trop de difficultés. C'est agréable, pas de lutte. C'est important de le reconnaître calme. Et je m'en souviens, j'avais une participante qui avait participé à une journée de méditation en silence. C'était sa première journée. Et puis, elle avait adoré, elle avait ressenti beaucoup de calme par rapport à sa vie agitée. C'était la première fois de sa vie où elle avait un moment de calme. Et donc, elle est revenue à une autre journée. Et puis, il n'y avait pas du tout de calme. C'était très agité. Et puis, elle voulait encore le calme. Et pour elle, c'était la grosse déception. Parce qu'elle cherchait le calme. Parce qu'elle avait aimé l'expérience. Et puis, parce que ça peut être apaisant et agréable d'avoir le calme. Mais le but de la méditation, ce n'est pas d'être dans le calme, ce n'est pas d'avoir le calme. La détente, elle est importante, parce que quand on est détendu, on peut s'ouvrir aux choses telles qu'elles sont. Mais ce n'est pas le but final d'être détendu. Et on peut voir juste maintenant comment c'est pour vous. Est-ce qu'il y a présence ou absence de calme? Et pour développer le calme, nous pouvons travailler par exemple avec la respiration. Parfois, ça aide de juste sentir la respiration du début jusqu'à la fin. Ça permet d'apaiser. Puis parfois, il n'y a rien qui marche en fait. C'est juste le calme qui arrive. Et puis ensuite, le sixième facteur de l'éveil, c'est la concentration. Et on a déjà vu la concentration, en fait, c'est le fait de ramener l'attention à un endroit précis, un sujet, un thème, une activité. Et lorsque le calme est là, c'est assez facile de focaliser l'attention quelque part, centre de distraction. Et la concentration, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, qu'on peut travailler, qu'on peut développer. Et Anne, elle avait donné l'exemple de la bougie quand elle parlait de la pleine conscience et puis de la concentration. Comment la bougie, en fait, elle a besoin de la cire. Puis la cire, c'est la concentration, donc c'est la base. Pouvoir maintenir la bougie allumée. Et donc la pleine conscience et la concentration sont quelque part liées en fait, elles ne peuvent pas être séparées. En tout cas, si on a envie de garder une attention un petit peu plus soutenue, on a besoin d'avoir cette concentration comme base pour pouvoir vraiment voir comment les phénomènes émergent, ils ont un temps de vie et puis ils passent. Et pour avoir cette attention nécessaire, on n'a pas besoin de travailler la concentration pendant longtemps, en fait. Donc, il n'y a pas de juste ou de faux. Il y a certaines personnes qui ont plus tendance à travailler la concentration que d'autres. Mais en soi, en fait, si par exemple compter, ça peut être difficile. Metta, c'est aussi un très bon travail de concentration. Ou le scan corporel, aller ressentir chaque partie du corps et garder l'attention. Donc la concentration nous permet de garder cette stabilité mentale dans la méditation. Ensuite, le dernier facteur de l'éveil, c'est l'équanimité. Upekkha, c'est l'impartialité. C'est le fait de pouvoir s'ouvrir aux choses de manière impartielle, donc sans préférence. C'est le fait de pouvoir accepter ou accueillir ce qui vient, sans dire ah, moi je préférerais ça ou moi je préférerais une autre chose. L'équanimité, c'est lorsque la sagesse rencontre le cœur dans l'instant, puisque l'équanimité, c'est aussi une qualité du cœur. Et l'équanimité nous permet de recevoir l'expérience intérieure ou extérieure sans aucune réactivité, en étant impartiel, que ça soit bon ou mauvais. Donc c'est un équilibre de l'esprit qui ne cherche pas à changer l'expérience pour pouvoir être en paix. La conscience est stable même s'il y a la tristesse ou s'il y a la solitude ou s'il y a la peur. Donc, c'est un peu un lâcher prise de nos préférences et pouvoir être dans l'instant présent. Donc, juste maintenant, est-ce qu'il y a équanimité ou pas? Ou est-ce qu'il y a des préférences? Peut-être que je préfère dormir ou que je préfère bouger ou que je suis sans préférence. Je m'en souviens une fois en retraite ici, j'avais pendant un moment plein de pensées qui me tournaient. Et puis il y a eu un moment en fait où j'ai pu revenir au corps. Et puis je sentis en fait que derrière il y avait une tristesse qui était un peu vers la poitrine. Mais j'étais ok avec cette tristesse. Il n'y avait pas de réactivité. C'était même il y avait de la joie en fait. C'était agréable de pouvoir voir qu'il y avait une tristesse. Et pas réagir, et juste être là. Et donc je pense qu'à ce moment-là, il y avait de l'équanimité, il y avait la présence, il y avait l'attention, il y avait la concentration, j'étais quand même un petit moment avec ça. Et donc avec l'équanimité, on peut vraiment accueillir ce qui est là. Et il y a Ajahn Suchito qui compare l'équanimité comme un lac qui est tout calme. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de. Mais c'est quand même vivant. Donc c'est un calme, mais avec la présence. Ce n'est pas l'indifférence en fait. Parfois on pense que on n'a pas de préférence, donc on est indifférent. Mais ce n'est pas du tout ça. J'ai une petite citation par rapport à l'équanimité. Comment atteindre l'équanimité? Eh bien, en ne faisant pas grand-chose. Pourquoi les saints sont-ils saints? Parce qu'ils savent être gais quand c'est difficile d'être gais. Patients quand c'est difficile d'être patient. Ils ont persévéré quand ils voulaient être tranquilles. Et ils sont restés silencieux quand ils voulaient parler. C'est tout. C'est simple, mais si difficile. Donc nous voyons les facteurs de l'éveil pour pouvoir reconnaître quand ils sont là, pour petit à petit être de plus en plus conscient de ce qui est là. Lorsque nous sommes dans le moment présent, de pouvoir les nommer, les reconnaître et pas nous identifier quand c'est agréable. Et le Bouddha a dit que travailler les facteurs de l'éveil, c'est une manière efficace d'atteindre l'éveil. Et à un moment donné, il y a un lâcher-prise du moi qui se fait, en fait, à travers ces facteurs. Et le Dharma s'installe. Et donc, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le Dharma qui fait en nous tout ça. Et simplement se laisser envahir par le Dharma, c'est nourrissant. Et donc, les facteurs de l'éveil, c'est un moyen habile. Pour nous libérer, pour nous libérer de nos souffrances, de nos peurs, de notre insatisfaction. Et on enseigne les facteurs de l'éveil dans la tradition Theravada, mais dans d'autres traditions, ils essayent d'autres choses. Et puis ça marche aussi, en fait. Donc, les facteurs de l'éveil n'est pas quelque chose pour se saisir, mais juste pour entendre, essayer de mettre en place, et puis lâcher prise aussi. Le Bouddha, il disait que ses enseignements étaient uniquement pour comprendre la souffrance et pour lâcher prise. Et donc les facteurs de l'éveil, c'est l'attention, l'investigation, l'énergie, la joie, le calme, la concentration et l'équanimité. Et pour finir, je vais vous lire une petite citation que j'aime beaucoup. Qui sont les paroles des maires de la place de Mai. Si tu es lasse et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil de l'eau, recommence. Si la vie te semble absurde, si tu es déçu par trop de choses et de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi, recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu ta pauvreté et tes limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite, recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont dessus de toi, irrités, ne te révolte pas, ne leur demande rien, recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver, le rameau fleurit sans demander pourquoi, l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne, car la vie est espérance et recommencement.